Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à vous, Aquilino Morel. On va évoquer, présenter votre livre publié chez Grasset qui s'appelle L'Abdication. Je vais juste dire quelques mots en préambule, si vous permettez. C'est un livre passionnant, je recommande très, très fortement la lecture. C'est un livre que je peux qualifier, moi je l'ai trouvé à charge, bien évidemment, contre François Hollande, on aura l'occasion d'y revenir. Mais ce n'était pas du tout, si certains pouvaient le penser, la réédition augmentée d'un autre ouvrage écrit par l'autre grande répudiée de l'Élysée, Valérie Trahvelert. Merci pour ce moment. C'est un livre très politique, dans tous les genres du mot, qui parle de la politique et du politique. Un livre très politique dans les quatre sens anglo-saxons, politician, polity, policy et politics. C'est un livre très documenté, cultivé, qui n'hésite pas à convoquer les plus grands comme Machiavel, Mazarin, Clausewitz du côté des praticiens, et Ernst Kantorowicz, Pierre Clastres, Paul Krugman ou encore Ravi Abdelal du côté des analystes. Autant dire que c'est ce qui se fait de mieux pour déconstruire et tenter de comprendre la réalité du pouvoir. Du côté des praticiens, j'aurais eu envie de vous conseiller de relire Balthazar Gracian, et en particulier L'homme de cour et le Criticon, 1647 quand même. Du côté des analystes, le grand Jean-William Lapierre, et son trop méconnu et pourtant tellement visionnaire, Vivre sans État, essai sur le pouvoir politique et l'innovation sociale, 1970. Ou encore Pierre Legendre, dont la lecture du Jouir du pouvoir, traité de la bureaucratie patriote, 1976. Devrait être rendu obligatoire pour tout membre de cabinet ministériel, a fortiori présidentiel. C'est un livre qui est un témoignage percutant sur le fonctionnement du pouvoir, décrit et analysé de l'intérieur du Léviathan, pour paraphraser, si vous permettez, le titre d'un de votre sixième chapitre. On y retrouve des manières de faire et des affres que l'on a connues chez Éric Orsenna, dans son remarquable Grand Amour, sans l'humour détaché du diplomate Éric Arnoux, le vrai nom d'Éric Orsenna, mais avec beaucoup plus d'humanité et de chair humaine que le froid et clinique des hommes d'État de Bruno Le Maire. Au risque de vous surprendre, je voudrais, en guise de première partie à notre entretien, évoquer le petit garçon de la Villa Faucheur, parce que c'est peut-être là que se situe la clé de compréhension de ce que vous exposez dans votre livre qui fait 400 pages. Alors, peut-être la première question. C'est page 369. Vous évoquez, vous écrivez: derrière l'homme parvenu au sommet de l'État, persistait l'enfant d'immigré, qu'en dépit de l'ascension sociale, je resterai le fils d'Aquilino Morel Cotto, je prononce mal, hein, pardon, et d'Elena Suarez Sima de Villa, que même si je vis désormais rue du Val-de-Grâce avec bonheur, je suis resté fidèle à la Villa Faucheur. Moi, je voudrais que vous nous racontiez, comme vous l'avez fait joliment, page 371, ce sont les débuts qui importent, les miens furent heureux, l'enfance et la jeunesse du petit Aquilino Morel installé dans le 20e arrondissement.
D'abord, merci infiniment de votre accueil, de votre présence et de la lecture que vous avez faite. J'ai vu qu'elle était très serrée et très précise. Donc, c'est bien, parce que quand on écrit un livre, c'est pour être lu. Et si on peut être lu attentivement et avec bienveillance, tant mieux. Merci aussi pour les paroles que vous avez dites sur l'intention qui était la mienne. Ce livre n'est en aucun cas un règlement de compte. D'ailleurs, c'est une passion triste, la vengeance et la haine. Et moi, je suis un disciple de Spinoza, donc j'essaie dans toute la mesure possible de m'éloigner des passions tristes. Et si j'avais voulu faire un livre qui soit un règlement de compte, je n'aurais pas écrit ce livre-là et je l'aurais écrit à un autre moment. J'aurais pu l'écrire d'ailleurs sous le coup de la colère, de cette éviction que j'ai vécue de manière particulièrement injuste. Et je peux vous dire que des propositions en ce sens, j'en ai reçu un certain nombre. Je les ai toutes déclinées et j'ai choisi de faire un livre, comme vous l'avez fait très gentiment observer, politique. Un livre d'analyse, de commentaires, de portraits aussi, parce que la politique, ce sont peut-être et bien sûr des idées, mais aussi des hommes et des femmes qui les font vivre, qui les incarnent. Et donc, il y a un peu de tout ça, mais c'est un livre politique. Alors, puisque vous me demandez de parler de mon enfance, c'est à la fois difficile, mais agréable. Et je le fais brièvement, parce que je pensais que c'était nécessaire de donner aussi une clé d'interprétation qui est celle-là, qui vaut ce qu'elle vaut. Elle résume pas toute la réalité de ce qui s'est passé pour moi, mais elle veut dire quelque chose. Alors, d'où viens-je? Qui suis-je? On dirait l'autre. Je suis le sixième d'une famille de sept. Mes parents sont donc des immigrés espagnols qui sont venus dans les années, la fin des années 50, en 1958 en France.
Donc des Asturiens.
Des Asturiens. Les Asturies, c'est une région au nord de l'Espagne, qui est une région minière, ouvrière, qui était surtout à l'époque une région très à gauche, républicaine, qui avait été atrocement réprimée pendant la guerre civile par les troupes franquistes. Et mes parents, comme beaucoup d'autres, souhaitaient quitter l'Espagne à la fois pour des raisons économiques et puis pour des raisons politiques de liberté. Vivre librement et pas sous un régime de dictature. Et de surcroît, mon père, lui, était venu petit.
Il était âgé de 2 ans. Hein.
À 2 ans, donc en 1924, puisqu'il était né en 1922, en France. Et il avait grandi en France. Il avait fait son école en France. Simplement, chaque année, il retournait l'été avec sa mère passer les vacances en Espagne, voir sa famille.
Et là, patatras, 36.
Il était 36, patatras. Il est retourné en Espagne, mais les frontières ont été fermées à cause de la guerre civile et il a été contraint de rester. De rester longtemps, bien plus longtemps qu'il imaginait. Il est arrivé à l'âge de jeune homme. Il a été obligé de faire son service militaire là-bas à une époque qui durait 3 ans. Il a rencontré ma mère. Ils se sont aimés, épousés. Ils ont commencé à fonder une famille. Mais lui, son rêve, enfin sa volonté, c'était de retourner dans son pays. Et pour lui, son pays, c'était la France. Donc très vite, ils se sont installés à Irun, oui, qui est la ville frontière avec la France, où il a travaillé comme facteur.
Il est facteur et projectionniste de cinéma.
De cinéma le soir, ouais, à Hendaye.
Ah oui, Hendaye. Oui.
Et puis, dès qu'il a pu signer un contrat de travail, en l'occurrence avec les usines Citroën, au quai de Javel, puis à Nanterre, il est parti. Il a pris sa femme, ses enfants, en l'occurrence mes 4 premières sœurs, et ils sont venus s'installer à Paris, d'abord à Montmorency, puis à Paris. Pour ma mère, ça a été un arrachement, parce qu'elle a quitté l'Espagne déjà adulte, ne parlant pas le français. Alors que pour mon père, c'était des retrouvailles souhaitées avec un pays qu'il aimait et qui était le sien.
La ville de la Faucheur, c'est dans le 20e arrondissement, un quartier un peu particulier, vous le décrivez.
La ville de la Faucheur, c'est un endroit qui a été absolument saccagé.
Ouais, par la promotion immobilière. Ouais.
Par la spéculation immobilière, à l'époque du chiracisme triomphant, pour dire les choses simplement. C'était un endroit merveilleux. C'était une voie en fer à cheval, avec des pavés bordés de petites maisons ouvrières. Chacune avait son jardin. C'était vraiment quelque chose de magnifique et en même temps de très populaire à l'époque. Donc il y avait des gens très modestes comme mes parents ou un petit peu plus, un peu plus élevés dans la hiérarchie sociale. Voilà. Et oui, il y avait un ingénieur EDF avec une famille très nombreuse, donc il avait trouvé à se loger là. Il y avait un couple de vieux retraités, etc. Enfin, c'était un milieu très mélangé, très sympathique. Et j'ai grandi là, dans le 20e arrondissement, en haut de la colline de Belleville.
Comme disait Jacques Brel, c'était votre Far West un peu, quoi.
C'était un peu le Far West.
Ouais, c'est ça.
Mais c'était un Far West amical, bigarré, avec plein d'enfants issus de l'immigration, surtout italienne et espagnole. Un peu des enfants du Maghreb, mais pas beaucoup à cette époque-là. Ouais. Et j'ai vécu une enfance très heureuse parce que j'avais des parents qui s'aimaient, qui nous aimaient. Et j'étais le 6e dans une famille de 7. Et j'ai eu la chance d'avoir 5 sœurs... c'était très sympa.
On comprend que vous êtes un très bon élève, même si vous n'avez pas fait de maternelle. Hein. La scène où vous êtes arrivé, vous êtes amené à l'école primaire est assez cocasse. Enfin, vous sautez tout de suite votre CE1, si j'ai bien compris. Ouais.
Hein. Je vous avais très bien lu le livre.
Non, mais bon, ça va. Et il y a quelque chose d'assez étonnant. Vous dites, j'avais un caillou dans la chaussure. C'était votre prénom. Oui. Alors ça, vous nous disiez pourquoi. Parce que vous dites, c'est quand même étrange, mes parents, mon père... il se fait naturaliser par décret à l'époque de Georges Pompidou. Mes sœurs sont naturalisées, mes parents, etc. Bon, vous êtes né en France en 62, si je me souviens bien. Hein. Et puis, il vous laisse avec le prénom Aquilino. Et lui, il se fait appeler Achille.
Oui, c'est une situation...
Comment vous l'avez expliqué, ça?
Je ne l'explique pas.
Pourquoi ça vous a gêné, alors?
Ça m'a gêné, pourquoi? Parce que... Enfin, ça m'a gêné, c'était pas non plus...
Oui, c'est pas honteux, hein, mais...
Non, mais c'était ni honteux, ni horrible. Ouais. Mais c'était quelque chose qui revenait.
Ah oui.
Moi, j'ai été élevé, comme pas mal d'enfants d'immigrés, par mon père et ma mère qui nous ont dit, toujours, nous sommes venus en France pour que vous soyez français. Donc, aimez ce pays, servez-le, soyez plus français que les Français. Et donc, voilà, faites votre chemin. Et donc, moi, je l'avais pris, cette injonction au pied de la lettre. Donc, moi, je voulais être un petit Français exemplaire. Donc, c'est pour ça que j'étais un très bon élève, parce que je voulais être le premier à l'école. Et... Moi qui voulais tellement être français, j'avais ce prénom qui était quand même un rappel de mes origines quotidien. Ouais. Tous les jours, des gens me demandaient, mais ça vient d'où, Aquilino?
Alors,
souvent pour me dire, c'est un joli prénom, mais c'est un joli prénom peut-être, mais ça me gênait. Et ça me gênait d'autant plus que si je m'étais appelé Aquilino Garcia,
c'est ce que vous dites,
ou Aquilino Lopez, bon, bah, là au moins, les choses auraient été claires. Mais quand vous appelez Morel, qui est un nom français, hein, seul l'orthographe pouvait faire penser que peut-être ce n'était pas une origine totalement française. Bon. Et qu'en plus, vous appelez Aquilino, alors là, évidemment, c'est bizarre, parce qu'on se dit pourquoi des parents français ont donné un prénom étranger, en l'occurrence espagnol, à leur enfant. Et moi, qui voulais tellement m'intégrer, qui voulais tellement devenir un bon français, plus français que les français de mon école, tous les jours, ou toutes les semaines, je devais donner une explication, pourquoi, oui, ça vient d'Espagne, je suis espagnol d'origine. Et donc, sans que ce soit très désagréable, c'était quand même quelque chose qui, comme je vous le disais, gênait un petit peu mon bonheur d'enfant.
Alors, c'est un milieu qui, vous l'avez dit, authentiquement de gauche. Hein, vous avez même cette formule, ma mère, comme mon père, votait toujours pour le candidat de gauche, quel qu'il fût, communiste, socialiste, radical, on dirait presque, à quelques exceptions près, une belle alliance populaire, peu importe pour eux, qui, sans se poser la moindre question, pardon, apporterait même sa voix à François Hollande le printemps prochain, si la chose était seulement envisageable. Votre père est ouvrier affûteur, il ne va jamais vouloir devenir contremaître. Hein.
Jamais.
Vous n'avez pas été sollicité pour vous engager tôt dans une organisation politique de jeunesse, mouvement de jeunes jeune socialistes, jeunes communistes, par exemple comme,
non. Non. Moi, j'ai fait des études longues.
Oui.
Et je les ai commencées assez tôt.
À l'adolescence, je veux dire, par exemple, vous n'avez pas cette envie de...
Non, ma famille était à la fois extrêmement politisé, dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'on parlait tous les jours de politique, devant le journal télévisé, le canard enchaîné, Libération, etc. Bon. Mais en même temps, ce n'était pas une éducation dans le sens il faut s'engager politiquement dans un parti, etc. Donc moi, j'ai découvert ça bien après, une fois mes études pratiquement complètement achevées.
Alors, je passe à cette formule qui est assez étonnante. Vous avez un professeur, on en a parlé tout à l'heure avant que ça commence, que vous rencontrez à Sciences Po Paris. Votre parcours, il est vraiment pas banal. Hein. Vous faites médecine, très jeune, si j'ai bien compris, hein, puisque vous êtes en avance à l'école. Vous réussissez brillamment le concours d'entrée en deuxième année de médecine, enfin, où se fait la sélection. Bon. Vous faites votre cursus classique en médecine et puis vous préparez l'internat. Et là, l'idée vous vient de tenter Sciences Po Paris. Bon. Comment vous avez entendu parler de Sciences Po
Par ma petite amie de l'époque. Ouais. Je vais tout vous dire. Ah, ça, je ne l'ai pas écrit dans le livre.
Non, ce n'est pas dans le livre. Pardon,
je ne vais pas tout dire non plus. Ma petite amie de l'époque, dont les parents étaient universitaires, avaient fait Sciences Po et ils m'aimaient beaucoup, je les aimais beaucoup aussi. Et ils me disaient toujours, lors du repas dominical, « Ah, ben, c'est tellement dommage que tu n'aies pas fait Sciences Po, tu aurais bien réussi. » Bon, et voilà, l'idée a germé.
Confidence pour confidence, j'ai découvert sous votre plume une expression, vous avez vu que je connais un petit peu le milieu, que je ne connaissais pas, qui est assez odieuse. Il a épousé un sac à Sciences Po Paris, rue Saint-Guillaume. Les sacs sont les jeunes filles qui portaient des sacs.
Pas seulement à Sciences Po Paris, la bonne bourgeoisie parisienne et peut-être la bonne bourgeoisie bordelaise, j'en sais rien.
Un sac au sens
aime bien dire
sac de collection, quoi. Enfin un sac de marque, quoi.
Non, un sac d'or. Quand on épouse une héritière, on dit t'as épousé un sac. C'est ce que les gens disent. Les bons bourgeois disent ça.
Moi,
j'ai pas épousé un sac. Hein.
Non, moi je connaissais le sac de sinistre mémoire, mais ça c'est autre chose. Je pense qu'on a connu le même. Alors, à Sciences Po Paris, vous avez un professeur qui s'appelle Gérard Vincent, qui est prof d'histoire et qui vous liait d'amitié. Et c'est un spécialiste, faut le savoir en plus, de l'histoire de l'enseignement et de l'éducation. C'est un très bon spécialiste de ça. Il a cette phrase alors que vous attendez les résultats de l'ENA. Aquilino, je vais vous dire ce que vous êtes. Je crois que c'est très important pour comprendre le livre. Vous êtes un sursocialisé anticipatoire de la strate inférieure. D'abord, c'est assez phénoménal que vous souveniez de cette définition.
Je m'en souviens parce que ça m'avait frappé.
Bah oui, elle n'est pas simple, en plus. Hein. Pouvez-vous nous la décrypter, cette expression ?
C'est un langage un peu marxiste pour dire que j'étais un enfant des classes populaires, ouvrières, qui avait compris tôt et mieux que les autres, les codes qui permettent de grimper dans la société. C'était une formule héritière de tout l'héritage, de tout l'enseignement de Bourdieu, de Passeron, etc., sur les héritiers, la reproduction, la manière dont, en France, la bourgeoisie, par un système scolaire particulier, reproduit les inégalités sociales par une sélection culturelle. Et de temps en temps, il y a un enfant dans des classes populaires qui parvient à se glisser dans l'anfractuosité et hop, à monter l'échelle sociale. C'est ça que voulait dire Gérard Vincent. Et Gérard Vincent, que j'aimais beaucoup, qui maintenant malheureusement est décédé et qui je crois m'aimait beaucoup aussi, quand il m'a dit ça, pour lui, il m'a asséné ça comme une phrase presque technique pour lui. Et pour moi, ça a été une révélation parce que j'étais déjà un jeune homme, enfin j'avais 25 ans ou 26 ans, j'étais marié, j'avais déjà deux enfants. Et d'un seul coup, j'ai compris que donc j'étais dans l'attente des résultats du concours d'entrée à l'ENA, très difficile, mais enfin j'avais été admissible, j'avais espoir d'être reçu, et je l'ai été. Et là, j'ai compris que ce que moi je pensais être très singulier, c'est-à-dire ma vie, ma trajectoire, ma famille, mes parents, mes frères et mes sœurs, mes études, était pour lui, comme une espèce d'entomologiste qu'il était, une espèce de papillon particulière, mais qu'il connaissait très bien en fait. Il n'avait pas beaucoup d'exemplaires, mais il les connaissait bien. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais il a raison, ce qu'il me dit là, il y a une espèce de dévoilement qui s'est fait, et je me suis dit à ce moment-là que d'une certaine manière, mon devoir pour ma famille, mes parents, et peut-être pour moi aussi, et puis pour mes enfants, dont certains étaient déjà nés, était d'avancer aussi loin que mes capacités et que les circonstances le permettraient.
Je ne prétends pas vous allonger sur le divan, mais ça veut dire que quelque part, vous avez entendu cela aussi comme une sorte d'idéal type et vous avez dit, il faut que je ressemble aussi peut-être à ce déterminisme-là.
Non, j'ai vu ça plutôt comme un diagnostic.
D'accord.
Ça, c'est comme quelqu'un qui vous dit.
Le clinicien qui reprenait le.
Quelqu'un qui vous dit voilà, ouais. vous êtes dans telle situation parce que vous êtes ça. Ouais. Et si vous l'ignoriez, bien sachez-le. Ouais. Et maintenant, votre vie, ça va être ça.
Alors après, ça rejoint ce que vous disiez, le langage marxiste ou marxisant. Chantal Jacquet, philosophe, dont vous suivez le séminaire, vous définit comme un transclasse. Enfin, vous comprenez. Non,
elle a écrit un livre
sur les transclasses.
Un très beau livre qui s'appelle.
Et c'est-à-dire, un transclasse, dit Chantal Jacquet, c'est, en fait, vous vous assimilez, vous comprenez ça, c'est un homme qui connaît la lutte des classes à l'intérieur de lui-même. Alors, par une sorte de petite coquetterie, vous dites, à un moment dans le livre, vous évoquez Jean-François Trans, c'est le pseudo de
François Hollande.
Vous savez qu'il y a deux personnages politiques célèbres au Parti Socialiste qui ont écrit, alors qu'ils étaient énarques, un livre sous pseudo, Mandrin, ça c'est Chevènement, avec Gomez et Mochan, et puis François Hollande. Alors vous citez pas vous parlez des quatre commensaux, mais vous donnez pas les noms. Alors moi je vais les donner. Pas de problème, c'est Jean-Michel Gaillard qui est décédé en 2005, qui a été un temps le patron de France 2, conseiller d'État. Ça, c'est la promotion Voltaire. Jean-Pierre Jouyet, que vous avez retrouvé, pas longtemps, mais il l'a retrouvé. Oui, mais voilà. Jean-Yves Le Drian. Alors lui, c'était pas l'ENA, c'était le canal universitaire. Et puis Jean-Pierre Mignard. Voilà. Ce sont les cinq auteurs de Jean-François Trans. Alors finalement, un transclasse qui rencontre un transcourant, ça peut faire que des étincelles, non ?
Ben voilà, vous avez tout compris.
D'accord.
Cette formule résume très bien les choses, mais le problème étant que ce Jean-François Trans que vous évoquez, ce pseudonyme et ce livre, La gauche bouge, qui a été publié en 1984, moi je ne le connaissais pas.
Ah oui ?
Et d'ailleurs,
vous êtes trop jeune, moi j'ai bien connu.
Non, je ne connaissais pas le livre. Et d'ailleurs,
mais non, mais moi je vous dis, j'ai bien connu.
Oui, mais parce que vous êtes un spécialiste de sciences politiques.
Non, parce que je suis plus vieux que vous.
Mais non, parce que même dans les socialistes qui sont plus vieux que vous, beaucoup l'ignoraient ce livre.
Ouais.
Et bien, ce livre a été publié en 1984 et il est tombé dans une sorte d'oubli assez savamment entretenu par les auteurs. Qui ne souhaitait pas qu'ensuite on le sache.
Je peux vous dire que quand il est sorti, ils ont fait et agité les pieds dans la bassine, parce que ça a eu un vrai écho.
Un vrai écho, mais cet écho s'est dissipé, s'est assourdi. Et d'ailleurs, je raconte l'anecdote en note de bas de page, je n'ai pas résisté. Mais je voulais me le procurer parce que je voulais l'étudier, ça m'intéressait beaucoup. Et je l'ai cherché sur Internet, impossible sur Internet, mais ça, comme le livre était assez ancien, il avait 30 ans.
Oui.
C'était possible.
Mmh.
Bon, ça arrive. Comme ça ne devait pas être un tirage énorme, qu'il n'y en ait plus, c'est possible.
Oui.
Mais étant enseignant à Sciences Po, je suis allé le demander à la bibliothèque de la rue Saint-Guillaume.
Donc ils se sont adressés au dépôt de Dreux.
Et là, j'ai donc fait ma demande. On m'a dit oui, très bien, votre livre arrivera dans 48 heures ou 72 heures, peu importe. Il est à la réserve de Dreux, parce qu'effectivement, ce n'est pas un manuel d'usage.
On sort tous les jours.
Tous les quotidiens. Je me rends le jour dit à la bibliothèque de Sciences Po, enfin au retrait des livres. Et là, la personne qui est là me dit « Écoutez, je ne comprends pas, j'ai reçu un courriel ce matin et on me dit que l'ouvrage est inexplicablement manquant sur les rayonnages de la réserve. » Alors, j'ai évidemment encaissé le coup, j'ai souri, je savais bien que cette personne n'y était pour rien. J'ai fait observer que c'était tout de même curieux. On m'a dit, oui, c'est curieux, mais c'est ça. Mais comme je suis pas, je ne me décourage pas facilement, je suis allé voir l'éditeur, Lattès, qui ignorait lui-même qu'il avait autrefois publié ce livre. Je lui ai dit, écoutez, voilà, vous devez avoir sûrement, comme j'ai visité là dans les rayonnages de votre librairie, vous devez avoir cet ouvrage, si vous pouviez me le prêter, je vous en serais reconnaissant. Et la personne m'a rappelé, le président de chez Lattès m'a appelé 48 heures après, me disant, mais je l'ai retrouvé, vous avez raison, je ne savais pas que j'avais ce livre, il vous attend, venez le chercher. Et donc j'ai pu le consulter et l'examiner.
Alors, on aura l'occasion d'y revenir parce que ça nous permet d'aborder la deuxième partie, que j'ai appelé moi l'abdication de Hollande et le paradigme européiste, parce que là, on aborde vraiment la question politique. Mais vous voyez, je voulais un petit peu faire l'état de la trajectoire avant. Page 287, c'est pratiquement le résumé du livre, ou la thèse principale du livre. François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir, il voulait seulement devenir le président de la République. Vous avez un texte, je vais me permettre de le lire parce qu'il est assez long, mais c'est essentiel, c'est page 50. À son monarque républicain, comme à ses prédécesseurs, le peuple français aurait été prêt à pardonner bien des choses. Son manque de charisme, ses palinodies, son irrésolution, ses doutes, sa malchance météorologique, ses frasques amoureuses, mais pas son abdication. On ne se choisit pas un souverain démocratique, on ne convoque pas quelques 45 millions de Français afin qu'ils élisent un roi pour voir ensuite celui-ci déposer paisiblement, benoîtement, au bout de seulement quelques mois, sans explication et avec le sourire, le pouvoir que l'on vient de lui confier. Il y a presque des éléments presque de tragédie dans ce dépôt des armes, en quelque sorte. Quel est le premier signe d'abdication que vous repérez? Est-ce que c'est le renoncement à mettre sous pression la chancelière lors du sommet européen des 28 et 29 juin 2012 sur la problématique de la croissance, alors que ça a été acté au G8 à Camp David, dès le 28 mai? Et à quel moment vous vous dites tiens, il y a un premier geste de crosse en l'air, comme on parlait de ceux qui ne voulaient pas combattre?
Je vais répondre. Mais ce que je voudrais dire aussi, c'est que être lucide a posteriori, c'est très facile. Donc là, on peut le faire tranquillement. Et je vais répondre à votre question. À froid, on peut dire oui, bien sûr, ça s'est passé à tel moment où je crois que ça s'est produit à telle occasion. Mais quand on est dans l'action, quand on est, en plus, ce qui était mon cas, moi, j'avais fait la campagne de François Hollande très proche de lui et j'étais très enthousiaste. C'est lui qui m'a proposé de le suivre à l'Élysée, de devenir son conseiller politique, alors que je pouvais être candidat aux législatives. Donc moi, j'étais, si vous voulez, dans le feu d'action et je voulais absolument réussir. La gauche n'avait pas occupé la présidence de la République depuis 31 ans. 31 ans. Et les gens qui, il y en a eu beaucoup, des militants, des citoyens, mais aussi des responsables comme moi, Manuel Valls ou d'autres, se sont battus pour que Hollande soit élu, voulaient le succès de François Hollande.
Quand vous dites 31 ans, pardon, je vous interromps, c'est l'élection du 10 mai 81, oui. Mais c'est 14 ans de septennat entrecoupé de deux cohabitations.
Oui,
mais la gauche est au pouvoir à l'Élysée.
Bien sûr.
Si ma mémoire est bonne, elle est 11 ans sur 10 ans sur 14. Hein.
Oui, mais là, on était en 2012, et donc c'était quand même un moment important pour la gauche que de retrouver la possibilité, ce qui s'est passé, de détenir la présidence. Donc, c'est facile d'être lucide a posteriori. Sur le moment, c'est beaucoup plus difficile. On est emporté dans l'action, on est emporté dans la foi que l'on a dans cette action que l'on veut faire réussir. Et puis, il y a les liens humains avec l'homme. Bon. En l'occurrence, avec le président. Mais puisque vous me posez la question, et c'est l'objet du livre, le livre il est écrit à froid, a posteriori, en chambre, donc c'est très différent. Il y a eu, à mon sens, deux moments que d'ailleurs les Français ont très bien compris. Deux moments qui ont, si vous voulez, marqué cette forme d'abdication. Le premier moment, qui est un moment fondateur, c'est le 18 et le 19 mai 2012. Donc, vous voyez que c'est très, très tôt, puisque François Hollande est élu le 6 mai et il arrive à l'Élysée le 15 mai. Et le 18 mai, nous partons, je l'accompagne, nous partons aux États-Unis rendre visite à Barack Obama. Donc, c'est une visite à la fois d'État, donc on est reçu par le président dans le bureau Oval, et le lendemain, il y a ce qu'on appelle un G8, c'est-à-dire une réunion des 8 plus grands chefs d'État et de gouvernement de la planète pour discuter de la situation économique.
Et le surlendemain, quelque chose à Chicago
sur l'OTAN.
Sur l'OTAN.
Hein. Sommet de l'OTAN. Donc c'est une séquence, comme on dit, politique et diplomatique de très haut niveau et très intense pour un président qui vient d'être élu. Bon. Qu'est-ce que dit Barack Obama au président Hollande lorsqu'il l'accueille dans son bureau ? À part une question fondamentale qui était celle du retrait des troupes françaises de l'Afghanistan, il lui dit « Vous avez été élu sur un programme de relance, de croissance et de réorientation de l'Europe vers la croissance et l'emploi. Je vous soutiens. C'est absolument fondamental. La crise de la zone euro ne se résoudra pas sans cette croissance. Demain, nous nous retrouverons à Camp David et je vous soutiendrai. » Nous allons à Camp David et le lendemain, les mêmes acteurs, mais avec notamment la chancelière Angela Merkel et Mario Monti, qui à l'époque est Premier ministre italien, David Cameron, Premier ministre anglais. Il se dégage à ce moment-là, dans l'enceinte, une forme de consensus pour dire oui, il faut relancer la croissance en Europe et c'est à vous, François Hollande, naturellement de le faire parce que vous avez été élu sur ce programme, le discours du Bourget, et que vous avez l'onction populaire la plus récente. Ça fait 4 jours que vous avez été élu. Bon. Donc, c'est à ce moment-là que les choses pouvaient se faire. Et Mario Monti, qui avait de la suite dans les idées, qui était tout sauf un socialiste, hein, c'était quand même un grand libéral formé dans les meilleures universités américaines, qui avait été 2 fois commissaire européen.
Parlant parfaitement français. Ça lui permettait de comprendre les blagues.
Et d'en faire lui-même, de faire subtil. Ouais. Mario Monti dit, il faut faire ça. Je vais convoquer, avant le sommet européen qui était prévu le 29 juin, je vais convoquer chez moi à Rome, avec Mariano Rajoy, le Premier ministre espagnol, une réunion pour que nous puissions voir comment on va procéder à cette relance en Europe. Cette réunion se tient. Cette espèce de, vous voyez, de môle, comme on dit au rugby, de môle politique commence à prendre figure. Et puis le 29 juin, alors même que le Premier ministre espagnol et le Premier ministre italien vont tordre le bras de la chancelière pour obtenir d'elle des mesures qu'elle ne souhaitait pas leur donner de lutte contre la spéculation, parce qu'à l'époque, leur taux d'intérêt était extrêmement élevé et pénalisait beaucoup leurs économies, François Hollande n'accompagne pas ce mouvement et n'exige pas et n'obtient pas ce à quoi il s'était engagé dans le discours de Bourget, c'est-à-dire la renégociation du traité budgétaire que Mme Merkel avait imposé à Nicolas Sarkozy et que celui-ci avait signé en mars 2012, juste avant l'élection. Et c'était un des points centraux du discours de Bourget. Donc là, vous avez une première cassure. Et puis la seconde cassure, vous avez utilisé le mot de tragédie. C'était l'objet.
C'est Florange.
Il y a eu un livre de journalistes qui l'ont écrit sur le moment, un peu après, qui s'appelait.
Léria Struc et je ne sais plus.
Et Elsa Fresnay, journaliste des Échos et une journaliste de France 2, sur Florange ou la tragédie de la gauche. Là aussi, c'est une tragédie. Pourquoi ? Parce que pendant la campagne, au mois de février, François Hollande est allé de son propre chef à Florange. Il est monté sur la camionnette, pour dire aux ouvriers de Florange, je vous soutiens, je suis avec vous. Lakshmi Mittal est un financier sans scrupule qui veut brader votre industrie, qui est une industrie performante. La métallurgie lorraine, ça marche, ça peut marcher. C'est du très bon acier, le meilleur d'Europe, dit-il. Et je vais vous soutenir. Et puis, au final, vous savez ce qu'il arrive. Le 30 novembre, Jean-Marc Ayrault va à la télévision annoncer que on va lâcher Léo Fourneau.
C'est une terrible d'Edouard Martin qui assiste à la scène et qui parle de trahison.
Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé ? Non seulement ça a été un choc symbolique et politique considérable, une tragédie, mais c'est qu'à ce moment-là, les classes populaires, les classes ouvrières, nous ont définitivement tourné le dos. En disant, vous avez sollicité nos voix, vous êtes montés en disant que vous allez nous soutenir et nous l'avons cru.
Alors vous avez évoqué le discours du Bourget, hein, on va y venir, parce qu'évidemment, il est extrêmement présent tout le temps hein, dans votre livre, au moins sur la première partie. D'ailleurs, c'est intéressant, vous dites que vous le comparez à un sacre, mais vous dites aussi que ce n'est pas du tout, dans votre esprit, un discours visionnaire. Vous dites qu'il n'y a aucune percée conceptuelle, il n'y a pas de grand dessin. Le propos est celui d'un constat et non d'une perspective. Rien de révolutionnaire. Mais en même temps, vous dites aussi que même s'il n'y a pas de Weltanschauung dans ce discours, vous dites que ça a quand même été un discours fondateur. Et vous pouvez même poser même la question, qu'est-ce qui fait qu'un discours comme ça rentre dans la mémoire collective ? Alors, vous êtes bien placé pour en parler, puisqu'on peut dire que vous êtes un des co-auteurs.
Oui.
Alors, la réponse à votre question, c'est pourquoi ce discours est rentré dans le roman national ou dans le roman politique français, en particulier de la gauche.
Rappelez-vous ce moment-là. C'est
le 21.
Le 22 janvier 2012. Donc, il y a 5 ans, presque jour pour jour.
Jour pour jour, c'est ça.
François Hollande a été désigné au terme des primaires. les mêmes que nous avons connus pour le premier tour hier. Mais il n'est pas encore un candidat incontesté.
Les primaires ont 2 mois à peu près déjà.
Voilà, il a besoin d'asseoir son autorité de candidat et de présidentiable auprès notamment de tout un tas de responsables du Parti socialiste qui se sont ralliés à sa candidature un peu contraints et forcés. Bon. Et donc, c'est lui-même qui me dit que ce discours sera très important. C'est pour ça que j'utilise la formule « ce fut son sacre », parce qu'il avait besoin de ce sacre. Il a besoin, d'un moment donné, que les gens le perçoivent comme quelqu'un qui va remporter l'élection présidentielle.
Donc, un peu comme le discours du Bourget de Sarkozy en 2000.
De la porte de Versailles.
De Sarkozy, pardon.
C'est un moment où on se dit, voilà...
Avec le Bourget de 2004, ça c'est autre
chose. L'homme est là et il va où il peut l'emporter parce qu'il a la stature. Donc c'est très important pour ça. Et puis c'est très important pourquoi ? Parce que ce discours, dans les thèmes qu'il aborde, la reprise de contrôle de la politique sur l'économie, la lutte contre la finance devenue folle, la réorientation de l'Europe, la renégociation du traité budgétaire européen, la refondation de la relation franco-allemande sur une base de, je cite François Hollande, de vérité et d'égalité, le patriotisme économique. Tous ces thèmes-là traduisent la synthèse, l'alliance qui s'est produite entre le premier et le second tour des primaires, entre François Hollande et Arnaud Montebourg. Car vous vous rappelez que, un peu dans la même situation qu'aujourd'hui, c'est Arnaud Montebourg avec ses 17% des voix qui a fait l'élection.
Il le fait beaucoup plus lentement que ce qu'il a fait cette fois-ci.
Il a beaucoup plus lentement, mais il le fait.
Et c'est vous qui, quelque part, si j'ai bien compris, participer au ralliement de Montebourg à Hollande.
J'organise cette alliance. D'accord. Donc cette alliance, elle se concrétise et elle apparaît publiquement aux yeux des citoyens à ce moment-là. Et puis enfin, dans ce discours, il y avait un esprit. Cet esprit, c'était un esprit de volontarisme politique. C'est de dire, oui, nous demandons l'élection parce que nous avons l'intention d'exercer le pouvoir dans une certaine direction.
Le retour du politique.
Retour du politique. Il y a une phrase très importante que dit François Hollande dans ce discours-là, ce jour-là, qui est « ce qui est en cause », je la cite de mémoire, mais je la connais très bien par cœur, « ce qui est en cause, sous-entendu, dans cette élection, c'est la souveraineté de la République face au marché et à la mondialisation. Voilà. » C'est ça qu'il dit. Et c'est ça qui fait que l'électorat de gauche va se mobiliser.
Même la République ira chercher même les petits délinquants. Hein.
Voilà.
Il parle de la République qui se déplace. Elle est en situation vivante. Quoi, hein, bon.
Donc ce discours est un moment fondateur. C'est le sacre du candidat Hollande. Mmh. Et c'est le moment où il noue une relation avec le pays, qui ne le connaît quand même encore pas très bien à ce moment-là, et où l'électorat de gauche se sent conforté. Et d'ailleurs, moi qui étais dans la salle, je m'en souviens très bien, comme tous les gens qui y étaient. Il y avait 25 000 personnes ce jour-là au Bourget. Bien sûr, les gens acclament le candidat dès qu'il arrive, mais on sent qu'ils ont encore une petite appréhension. Et à mesure que le candidat parle, qu'il lance ses tirades, qu'il énonce son programme, qu'il emporte l'adhésion, on sent la ferveur monter jusqu'à ce final extraordinaire où on sent que le candidat est porté et que tout le monde, même ceux que ça embête dans le fond, parce qu'il y a quand même quelques camarades haut placés que ça embêtait, sont obligés de se dire, bah oui, Hollande a réussi et Hollande va ou peut être président de la République. Donc c'est un moment fondateur.
Moi, j'étais pas dans la salle, j'étais devant ma télévision à regarder BFM. Donc évidemment, ça n'a rien à voir.
Mais il y en avait beaucoup.
Vous parliez de regarder les choses un peu à froid, on n'est pas dans l'ambiance. Moi, j'ai pensé à cet aphorisme qu'on a prêté à Guy Mollet, paraît-il, au pied de la tribune du congrès d'Épinay 71. Mitterrand n'est pas devenu socialiste, il a juste appris à le parler, le socialisme.
Je vous vois venir.
Vous n'avez jamais douté ? Vous n'êtes pas fait cette réflexion-là ?
Non.
Vous qui avez écrit le texte, alors.
Non, non,
vous alors, pas, mais...
je vais vous répondre très simplement. Aujourd'hui, et de manière moins bienveillante et moins malicieuse que vous, il y a pas mal de gens, notamment des journalistes, qui me disent « Mais enfin, écoutez, comment avez-vous pu vous laisser prendre ?»
Je parlais que du Bourget, là. Je parlais pas de l'histoire après.
Non, du Bourget, par le Bourget. Mais je vais vous répondre très simplement. Moi, si j'avais eu le moindre doute sur le fait que François Hollande ne tiendrait pas les engagements pris lors du discours de Bourget, je ne l'aurais pas aidé à rédiger ce discours et je ne l'aurais pas accompagné. Parce que ce que ça veut dire, quand on vous pose cette question, c'est, dans le fond, mais pourquoi n'êtes-vous pas un cynique ? Et pourquoi êtes-vous un naïf ? Mais moi, je préfère qu'on pense de moi que je suis un naïf et que je l'ai été ce jour-là, plutôt qu'on pense que j'ai été un cynique. Surtout si le cynisme conduit à la situation crépusculaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Avec un président qui, dans l'incapacité de se représenter, une gauche qui est triste, désillusionnée, qui ne vient pas en nombre suffisant voter hier aux primaires et qui dit qui a le sentiment, comme disait Manuel Valls, de peut-être disparaître demain de l'histoire. Donc si c'est ça le résultat du cynisme, mais alors, je préfère mille fois qu'on puisse penser que j'étais naïf. Et je ne sais pas si je l'ai été, mais en tout cas, moi, j'ai été sincère et convaincu ce jour-là, comme des millions de Français et comme des centaines de camarades de la direction du parti qui ne pensaient pas, effectivement, que les choses tourneraient de cette manière. Sinon, pourquoi aurait-on fait ça ?
On va y venir dans la troisième partie. Hein, c'est la problématique de la ruse, de la ruse suprême en particulier, hein, celle qui consiste à ne pas apparaître comme rusé. Hein, on va y revenir. Il y a un texte, un passage très beau là, dans votre texte. Mais je voudrais qu'on aborde un point essentiel parce que je trouve que vous avez touché sans doute ce qui constitue la ligne de fracture fondamentale de la gauche de gouvernement, ce que vous rappelez, c'est-à-dire ce que Jean-Pierre Chevènement appelle les ides de mars. Hein. C'est un épisode assez peu connu. Je trouve que le hasard de l'histoire a fait que moi, je l'ai vécu un peu dans la périphérie, mais je m'en souviens très bien. C'est le moment où François Mitterrand arbitre entre les visiteurs du soir, on va dire, Bérégovoy, Chevènement, Fabius d'ailleurs, qui est plutôt de ce côté-là à ce moment-là, qui opportunément va changer. Hein. Et puis Monroy de l'heure. Hein. C'est 83, c'est le tournant de la rigueur. Les municipales de mars 83 ont été catastrophiques. Même le PS a failli perdre Marseille. Si Gaston Defferre n'avait pas fait le twist qu'il a fait sur la loi PLM, le PS perdait Marseille. Et le choix, c'est oui ou non la France sort-elle du SME, du serpent monétaire, avec tout ce que ça a comme conséquence. Et là, Mitterrand choisit, avec Delors et Monroy, il garde Monroy, quelque part, vous dites, pour faire le change, pour donner le change. Il remplacera Monroy par Fabius à l'occasion de la loi scolaire en juillet 84. Mitterrand choisit délibérément la voie européenne. Et vous dites, ça va provoquer, finalement, deux gauches, enfin, deux forces, de force en tension permanente au Parti socialiste, ce que vous dites la gauche du oui et la gauche du non, en référence aux référendums successifs qui vont advenir. Et vous parlez de Mitterrand qui en profite pour substituer au socialisme le paradigme européiste. Vous pouvez nous expliquer ça ?
Oui, parce que ce qui s'est noué en 83, Chevènement était un des acteurs les plus importants de cet épisode. C'est pas seulement comme on a dit, la rigueur, la parenthèse, comme avait dit Lionel Jospin. Ce n'est pas seulement ça. C'est qu'à partir de ce moment-là, la gauche du gouvernement, avec Mitterrand, avec Delors, avec Pascal Lamy, avec Jean-Pierre Jouyet, avec tout un tas d'acteurs qui ont eu un rôle soit public, soit un peu plus dans la coulisse, mais extrêmement important, ce n'est pas seulement l'ajustement d'une politique de relance qu'on est obligé d'interrompre parce que la balance commerciale se creuse, les déficits sont importants. Ce n'est pas seulement ça. C'est qu'à ce moment-là, on va construire l'Europe d'une certaine manière. On pouvait la construire d'une autre manière.
Alors laquelle ?
De la manière qui a consisté, ce que personne ne demandait, même pas les Américains, à libéraliser les mouvements financiers, les mouvements de capitaux.
L'autre manière, pardon, c'était laquelle ?
Parce qu'on a pu la construire d'une manière axée sur l'industrie, la recherche, la culture, la croissance, ce que l'on réclame, ce qu'on a eu de cesse ensuite de réclamer.
Il fallait être plusieurs pour faire ça.
Il suffisait d'être la France pour faire l'Europe libérale. C'est ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé.
Oui, c'est ce que vous appelez le compromis. Ben, c'est ce que
Raoui Abdelal.
Abdelal appelle le consensus de Paris.
Hein, absolument, voilà. Ce n'est pas moi. Moi, je ne fais qu'en l'occurrence que traduire, car ce livre, malheureusement, n'est pas traduit. Je fais appel aux éditeurs de bonne volonté pour traduire. Le livre d'un grand professeur américain, Raoui Abdelal, qui est professeur à Harvard, donc qui n'est absolument pas un socialiste, et qui a non seulement analysé les documents, mais qui a fait parler les acteurs de l'époque. Mmh. Et que disent-ils ? Que dit Pascal Lamy ? Il dit qu'il fallait que la gauche libéralise. Parce qu'on ne peut pas compter sur la droite pour le faire. C'est ça le problème de la gauche que nous avons aujourd'hui. Parce que 30 ans plus tard, l'Europe a pris une direction que les peuples contestent tous les jours. À chaque fois qu'on demande aux peuples leur avis sur la manière dont l'Europe se construit, ils disent non. Avis dont, en général d'ailleurs, on ne tient pas compte. Hein, nous avons voté non le 29 mai 2005, mais le traité de Lisbonne est revenu au Parlement en 2008. On a fait revoter les Danois, les Hollandais, jusqu'à ce qu'ils votent dans le bon sens. Après, on s'étonne de la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et on s'étonne que la social-démocratie soit balayée partout en Europe. Mais pourquoi voulez-vous que les gens de gauche votent pour des partis qui leur disent « nous allons vous protéger, faire une politique pour vous » et qui ne la font pas ? À un moment donné, ils se disent « c'est plus simple de ne pas me déplacer, de rester ou de laisser la droite gouverner, puisqu'après tout, c'est elle qui est libérale par nature. Donc c'est ça le problème dans lequel nous sommes. Et cela, il y a un homme qui l'avait vu, qui l'avait compris. Et donc, curieusement, le discours est passé à la trappe, dont
Mendes,
on ne parle jamais.
Mendes France.
Pierre Mendès France.
Vous le citez, oui.
Pierre Mendès France, qui a gouverné peu de temps, 7 mois, mais qui est resté comme une figure, une autorité morale, intellectuelle, politique de la gauche. Pierre Mendès France est monté à la tribune de l'Assemblée nationale, à l'époque on appelait ça la Chambre des députés, c'était le 18 janvier 1957, pour expliquer son vote.
Dans un gouvernement et ses fillots.
Dans un gouvernement et ses fillots.
Hein.
Monté à la tribune pour expliquer quel serait son vote à propos du traité de Rome, qui allait être ratifié le 25 mars, donc quelques semaines après. Et que dit-il ? Il dit « Je voterai non. Non à ce traité. »
Il dit non à la COD. Hein.
Je voterai non. Pourquoi ? Parce que, dit-il, ce traité met en œuvre le libéralisme du 19e siècle qui n'a jamais réglé aucune crise. Il n'y a rien à retrancher à cette phrase aujourd'hui. Et dit-il, parce que, et c'est la raison principale du titre de mon livre, il y a deux manières pour une démocratie d'abdiquer. Il y a celle qu'on connaît bien, qui consiste à donner les pleins pouvoirs à un homme providentiel et qui va tourner à la dictature. Et puis il y a une manière différente qui consiste à donner à une autorité qui, je le cite, sous l'apparence de la technique, va en réalité exercer le pouvoir politique parce que quand on commence à déterminer une bonne politique économique, commerciale, financière, etc., au final, on exerce la politique tout court. Eh bien, cette abdication de la démocratie, c'est celle-là qui explique la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui et qui explique, par exemple, que François Hollande ait abdiqué lui-même en 2012. Parce que quand je dis, vous l'avez cité cette phrase, qui est une phrase lourde de sens, François Hollande ne voulait pas exercer le pouvoir, il voulait être président de la République. Je ne veux pas dire par là que c'était un être médiocre qui voulait simplement être président pour assouvir une ambition et être à l'Élysée. Pas du tout. François Hollande aime la politique, il aime son pays, et il avait l'ambition de devenir président, mais sa conception de l'exercice du pouvoir est une conception extrêmement contrainte. On ne peut pas faire grand-chose parce qu'on est dans le cadre des traités européens.
Pusillanime, vous dites.
Parce qu'il y a la mondialisation. Mais s'il avait été élu en disant cela, en disant, mes chers compatriotes, je n'ai pas l'intention de remettre en cause le cadre européen, je n'ai pas l'intention de mettre en cause la mondialisation libérale, votez pour moi. Il n'aurait pas été élu. Donc il a tenu un discours, le discours du Bourget, qui dit le contraire. Je vais remettre sur pied la relation franco-allemande, je vais renégocier le traité budgétaire, je vais faire une Europe protectrice sur le plan commercial, industriel, etc. Il ne le fait pas. C'est là où, si vous voulez, l'abdication de la démocratie, elle vient à ce moment-là. Elle surgit à ce moment-là et elle est reliée à ce que Mendès France, en 1957, avait vu, parce qu'il était visionnaire et avait compris de ce que serait le traité de Rome. Mais on ne nous parle jamais de ça. Mendès France, c'est le petit verre de lait aux écoliers, la décolonisation, mais on ne nous parle pas de ce discours, qui est un discours fondateur. Tout le monde, pratiquement tout le monde, connaît Pour une République moderne. Bien des gens ont le volume dans leur bibliothèque, mais personne n'a l'ouvert aux pages 250 à 275. Alors, ce que j'invite chacun à faire.
Là, j'ai ouvert votre livre, page 367, et vous écrivez « Jamais je n'aurais dû accepter la proposition de François Hollande de l'accompagner à l'Élysée. Jamais, surtout, il aurait dû me faire cette proposition. Là réside notre faute partagée, même si ses torts sont, en l'occurrence, plus grands que les miens. » Et on va terminer sur le modèle européen, parce que là encore, vous avez voté non au traité de Maastricht, 92. Vous avez voté non à la consultation interne.
J'ai même fait la campagne du non en 2005.
Hein, 2004 et 2005. Et vous ralliez Laurent Fabius, avec lequel vous n'avez pas des atomes crochus, c'est le moins qu'on puisse dire. Ou alors je me trompe, mais enfin, vous ne semblez pas particulièrement fabusien. Donc vous avez, j'allais dire, un parcours qui est aux antipodes de celui de Hollande, qui vote oui à tout au référendum,
oui, mais
européen.
Il s'est passé une chose entre-temps. Il s'est passé que François Hollande a été élu président de la République, et que j'ai fait sa campagne très activement, qu'il me demande à moi de venir. Or, la différence, et c'est pour ça que je dis que la faute est partagée, mais qu'il a plus de fautes de tort que moi, c'est pas seulement qu'il est président et que moi je ne suis que conseiller, c'est que, comme je l'écris, lui, il savait tout de moi. Il savait que j'avais voté non à Maastricht en 92. Il m'avait vu aux côtés de Lionel Jospin pendant 5 ans. Il savait quelles étaient mes idées. Il savait que j'avais fait la campagne du non en 2005 et qu'à cette occasion, j'avais rejoint Laurent Fabius, effectivement, parce que c'était la personne qui portait ce combat. Et que moi, à l'époque, je ne faisais pas semblant. Ils savaient tout cela. Mais moi, j'ignorais que François Hollande était aussi Jean-François Trans. D'accord. Donc, ouais. Il y avait une asymétrie entre lui et moi.
On appelle ça une dissonance cognitive, très clairement.
Et donc, ouais. Et j'ajoute, je vous l'ai déjà dit, c'est très important, c'est lui qui me demande de venir.
Oui.
Et moi, j'étais fier et heureux de l'accompagner.
Alors qu'on vous proposait une circonscription dans la Somme.
Oui, absolument.
Alors, François Hollande, on va passer très vite dessus. Enfin, alors là, quand même, quelques phrases parmi des dizaines. Hein. Faux mou et vrai méchant. Libéral donc, mais libéral honteux. François Hollande est sans doute un européiste authentique qui n'a jamais été qu'un doloriste de circonstances et d'opportunisme. L'expulsion brutale dont vous êtes la victime, d'une brutalité dont seuls sont capables les faibles. Étrange président que cet homme, doué de charme, mais dépourvu d'autorité, c'est une belle phrase. Et puis le coup de grâce, page 341, Hollande est un tueur, je le sais.
Bah, le coup de grâce, c'est un tueur, c'est moi qui l'ai essayé de tuer.
Il a essayé de me tuer, ouais. Hein, voilà.
Sans et, succès.
Non, la preuve, vous êtes bien là, puis ouais. Vivant. Hein. Page 316, vous posez-vous un diagnostic. Vous dites finalement, l'atout et la faille de François Hollande, c'est le même mot, c'est l'intelligence.
Oui.
Expliquez-nous ça.
François Hollande est un homme extrêmement intelligent. D'une intelligence particulière, très rapide. Il comprend tout très vite. Mais ça, c'est une constatation que j'ai faite depuis très longtemps, depuis que je fais un peu de politique. C'est qu'en politique, l'intelligence ne sert pas à grand-chose.
J'aurais tendance à vous rejoindre sur,
ce qui compte, ce sont les qualités morales, la force de caractère, l'endurance, le courage, la volonté, la loyauté, la fidélité. C'est beaucoup plus important que l'intelligence. Et François Hollande, qui est un homme très intelligent, a une intelligence qui le conduit, lorsqu'il examine une situation, comme il en perçoit toutes les facettes très bien et très rapidement et très précisément, décider, c'est-à-dire, non, je ne peux pas conserver toutes les dimensions d'un dossier, je dois en privilégier une et je dois prendre une décision, c'est un arrachement pour lui. Ce qui explique que bien souvent, comme je l'ai écrit, puisque vous rappelez cette phrase, à force de tout comprendre, il a fini par ne rien décider. Mais quand vous êtes chef de l'État, il vaut mieux comprendre moins de choses, moins bien, et décider plus vite et plus fermement. D'accord. Ça, c'est une constatation empirique. Et elle vaut depuis qu'on exerce le pouvoir.
Parce que clinique, oui.
Oui, clinique. Oui, oui. Et ça a été pour moi une découverte. Parce que je ne connaissais pas très bien François Hollande. Quand j'étais conseiller de Lionel Jospin à Matignon pendant 5 ans, il était alors premier secrétaire du Parti Socialiste. Donc on le voyait toutes les semaines venir voir le Premier ministre, discuter avec nous. Il était une sorte de super conseiller politique, super porte-parole du Premier ministre qu'il avait. C'est Lionel Jospin, c'est Lionel qui l'avait désigné comme premier secrétaire, puis il a été adoubé par les militants, ultérieurement au congrès de Brest. Mmh. Mais je n'avais jamais travaillé avec lui. En fait, la relation s'est nouée entre nous, du point de vue du travail, pendant de la proximité, campagne. Pendant la campagne, quand il m'a demandé de le rejoindre. J'avais dirigé la campagne d'Arnaud Montebourg, au primaire. Et à ce moment-là, quand on a terminé celle-ci, que l'alliance entre Montebourg et Hollande s'est passée, comme je le raconte, à mon domicile, que j'en étais d'une certaine manière le gardien.
Facilitateur. Ouais.
Voilà, et l'artisan, si vous voulez. C'est là qu'il m'a demandé de rejoindre, et dans la campagne, puis à l'Élysée. Et c'est là que je l'ai découvert. C'est pour ça que la lucidité, je vous le disais, rétrospectivement, c'est très facile de dire « Ah bah oui, il y avait ci, il y avait ça, l'homme était comme ci, l'homme était comme cela. » Mais dans le moment, les choses ne se passent pas de cette manière. Vous accompagnez un homme que d'une certaine manière, vous aimez. Il faut quand même comprendre ça. On ne se défonce pas, comme je l'ai fait, pendant la campagne, et même pendant les 2 années que j'ai passées à l'Élysée, si vous n'avez pas un lien fort avec la personne. Après que ce lien ait été rompu, et rompu de son fait, et dans des conditions que je trouve personnellement très regrettables et même assez indignes, c'est autre chose. Mais le lien, il y avait. Le lien était fort.
On le voit dans le texte parce que, à plusieurs reprises, vous montrez en particulier, j'étais très, très frappé par ça, vous vous embrassez beaucoup, par exemple.
Ça nous est arrivé, oui.
Ouais, ouais, non, mais ça ressort dans le livre, quoi, vous dites.
Bah parce que je raconte la scène telle qu'elle s'est déroulée. Ouais. Donc elle est...
Alors, vous citez le bréviaire des politiciens, là, je vous l'ai amené, là, hein, que l'on prête au cardinal de Mazarin. Hein, on le prête, hein, au cardinal de Mazarin. Parce qu'il y a un débat, hein, à propos de l'intelligence rusée sur l'intelligence politique, hein, qui est celle de Métis. Et puis, vous citez les deux premiers préceptes, pardon, simule, dissimule. Moi, ma petite histoire, il y a 10 axiomes hein, que Bazarin propose à son jeune élève. Hein, j'en lis quelques-uns. Agis avec tous tes amis comme s'ils devaient devenir tes ennemis. Dans une communauté d'intérêts, le danger commence quand un des membres devient trop puissant. Quand tu te soucies d'obtenir quelque chose, que personne ne s'en aperçoive avant que tu ne l'aies obtenu. Il faut connaître le mal pour pouvoir l'empêcher. Ce que tu peux régler pacifiquement, ne cherche pas à le régler par la guerre ou par un procès. Mieux subir un léger dommage que, dans l'espoir de grands avantages, faire avancer la cause d'un autre. Il est dangereux d'être trop dur en affaires. Mieux vaut le centre que les extrêmes. Tu dois tout savoir sans rien dire, être gracieux avec chacun, sans donner ta confiance à personne. Le bonheur, c'est de rester à égale distance de tous les partis. Vous saviez que François Hollande avait été à l'école de Mazarin ?
Je l'ai découvert ensuite, oui. Vous en dressez le portrait, là, en lisant les 10 préceptes de Mazarin. Oui. Mais moi, je n'appartiens pas à cette école-là de la politique. Donc je dois dire que j'ai été un peu étonné. J'avais été mis en garde, hein, quand même.
Par qui ?
Notamment par Martine Aubry.
Oui, bah, là.
Mais je croyais que, comme c'était Martine qui me le disait, c'était peut-être un peu...
C'était pas forcément
objectif.
Oui, c'est ça, je veux dire.
Je dois dire...
Peut-être que vous n'étiez pas dans l'erreur, cette fois.
Je dois dire qu'elle ne s'est pas trompée.
Oh.
Et que ce qu'elle m'a dit était fondé. Mais enfin, bon, oui. ça, c'est pas grave, mais de toute manière, ça n'a pas beaucoup d'importance. Encore une fois, je préfère être taxé de naïveté que de suivre les préceptes que vous donnez, parce que... Je vous répondrai.
Non, ça c'était plus. Oui, on a bien compris, c'est plutôt François.
Oui, exactement. Vous savez, je cite aussi dans le livre un dialogue de Fénelon tiré du dialogue entre les morts entre Richelieu et Mazarin. Et Richelieu dit à Mazarin : ce n'est que par faiblesse qu'on a recours à l'habileté et à l'astuce. Ouais, quand on est fort, on n'a pas besoin de ça.
Est-ce que ce livre n'aurait pas pu s'appeler Notre échec ? Parce que à plusieurs reprises, vous employez le mot et vous dites « ceux-là dont j'étais ont perdu la bataille ». Quelle que soit la part de l'homme Hollande dans le fiasco sans précédent qu'aurait été son quinquennat, elle est écrasante, il n'en reste pas moins que la responsabilité de cet échec est partagée. Pourtant, page 245, pourtant j'ai échoué à le convaincre, échoué à faire respecter le discours du Bourget, échoué à infléchir le cours de sa politique, échoué à résister. Cet échec politique et personnel, vous dites, était un échec programmé. Puis même, pratiquement dernière page du livre, page 401, trop grande, trop belle, trop proche, surtout, si prestigieuse, symbole de ma réussite, la chambre de génie fut aussi la cause de mon échec. Il faut que vous expliquiez ce que c'est que la chambre de génie. Hein. Il n'y a pas de coucherie, là, j'allais dire.
Pas avec le président.
Dites-nous ce que c'est que la chambre de génie.
Non, mais pour le titre, il aurait pu s'appeler Notre échec. Il aurait pu s'appeler aussi du titre du beau film Nous nous sommes tant aimés. J'ai choisi l'abdication, pourquoi ? Parce que j'ai fait un livre politique. J'ai essayé de mettre à distance autant que possible toutes les considérations personnelles. D'ailleurs, vous aurez observé, puisque vous avez lu ce livre avec attention, qu'il n'y a pas une ligne, pas une, sur la vie privée du président, oui, qui a pourtant donné lieu à quelques péripéties.
Vous ne citez jamais le nom de Julie Gayet. Vous l'appelez une productrice de cinéma.
Ce n'est pas le problème, c'est que je ne voulais pas entrer là-dedans. Donc il n'y a rien. Donc, c'est un livre politique. Donc j'ai choisi l'abdication parce qu'il me semblait que c'était exactement, vous voyez, comme dans un système de poupées russes, exactement ce qui s'était passé. Car, je dois quand même le dire, ce titre, l'abdication, je ne l'ai pas choisi après que le président soit venu le 1er décembre abdiquer à la télévision.
Vous en parlez dans le livre parce que vous avez rajouté des pages, hein, j'imagine.
J'ai rajouté 3 lignes à la fin. J'ai choisi ce titre il y a très longtemps. Et d'ailleurs, l'annonce de l'agence France Presse, la dépêche qui annonce mon livre, est du 30 novembre, donc de la veille du jour où François est allé à la télévision pour annoncer son abdication. Mais cette première abdication renvoie à l'abdication de 2012. Et elle-même renvoie à l'abdication de la construction européenne. Et du libéralisme que les socialistes français ont mis en œuvre. Donc, ça me paraissait être le mot juste, celui qui retranscrivait le mieux la réalité de la situation. Et puis, pour la chambre de génie...
Alors, c'était votre bureau. Hein.
C'est le titre d'un des chapitres.
Mmh. Oui.
C'était le nom du bureau que j'occupais. À l'Élysée, au premier étage, comme dans tous les palais de la République, il y a peu de bureaux parce que ce sont des très grandes pièces. Donc il y a le bureau du président qui est au centre de la façade. Le salon doré. Dans l'aile ouest, il y a un bureau qui est le bureau attribué classiquement, traditionnellement, au secrétaire général de l'Élysée. Et puis dans l'aile est, Il y a un bureau très beau, à mon avis le plus beau, parce que la lumière est très belle, elle vient à la fois du sud et de l'est, qui est à la jonction entre la partie publique
et
la partie privée, parce que c'est là où il y a, par une petite pièce charmante, on débouche dans les appartements privés du président et dans ce qu'on appelle l'aile madame, ce que les gardes républicains et les huissiers appellent l'aile madame, c'est l'aile dans laquelle vit le président avec sa compagne ou son épouse lorsqu'il y en a une. Et moi, j'occupais ce bureau-là, qui était un bureau pas seulement très beau, mais évidemment un lieu de pouvoir très important et très envié, puisqu'il était un jet de pierre, pas à 10 mètres du bureau du président.
Il y a un secrétariat particulier qui le sépare.
Voilà, on est séparés, les deux bureaux sont séparés par le secrétariat particulier du président. Et puis parce qu'il y avait cette possibilité, l'autre issue, d'aller vers les appartements privés. Et d'ailleurs, ce qui faisait que le président, outre le fait qu'il venait très souvent dans mon bureau pour parler, évidemment, assez souvent repartait par là lorsqu'il voulait rejoindre ses appartements.
On va terminer à l'évocation de l'ambiance à l'Élysée, parce qu'il y a aussi ce passage-là, ça c'est assez passionnant. Il y a des personnages que vous croquez qui sont étonnants. Le passage avec Benoît Puga dans l'avion pour partir en Afghanistan.
Personnage extraordinaire.
Benoît Puga, c'est donc chef d'état-major particulier du chef de l'État, sous Sarkozy, maintenu contre toutes, j'ai dit presque, les règles de la retraite et tout ça, chef d'état-major particulier de François Hollande. Dans l'avion, je le dis parce que c'est un passage savoureux. Vous êtes assis à côté de lui. C'est quelques jours après la prise de fonction. Hein, vous partez en Afghanistan. Hein,
ah oui.
Ça a été gardé secret et tout. Le président va aller sur la Capissar. Hein, et puis vous êtes à côté de lui. Il vous dit, c'est bien que vous soyez venu, monsieur Morel, parce que vous êtes médecin. Vous savez ce que c'est que des corps. Vous avez ouvert des corps avec votre bistouri. Et moi, j'en ai ouvert avec ma baïonnette. Et j'ai mis les mains dans les corps et dans les ventres. Et vous aussi. Vous lui dites, c'est une façon de voir les choses, ça vous surprend un peu quand même, non?
Oui, on était dans l'avion, donc on part à l'aube, il est peut-être 4h, 4h30 dans l'avion du président pour un voyage tenu secret, pour des raisons évidentes de sécurité. On part à Kaboul, puis après en vallée de la Capissa, voir les soldats français et leur annoncer, leur confirmer ce que le président avait pris comme engagement, c'est-à-dire vous rentrerez pour la Noël.
À la fin de l'année.
On se retrouve dans l'avion, le hasard des placements fait que je me trouve à côté du général Puga, qui est un personnage très haut en couleur, qui avait
12 enfants.
11 enfants.
11. De la même femme.
La même femme. 11 enfants, catholiques traditionnistes.
Son frère est un des curés de Saint-Nicolas-du-Chardonnay.
Son frère est le vicaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnay à Paris. Il a sauté sur Colvézi en 78 avec le 2e REP, bataillon qu'il a dirigé. Enfin, il a une carrière militaire très, très prestigieuse et très... comment dire
active.
Active, voilà. C'est pas
un amiral Guillaume.
C'est pas un soldat de salon. On se retrouve assis dans l'avion et là, il me dit, la conversation se noue ainsi, il me dit, mais je suis très content que vous soyez venu, monsieur Morel, parce que vous n'étiez pas obligé, etc. Et je lui dis la vérité, je lui dis, vous savez, moi, mon métier, c'est d'accompagner le président et comme maintenant, il n'y a plus vraiment de distinction entre vie politique nationale et vie internationale. D'ailleurs, l'avion, sur place, on va trouver plein de journalistes qui sont des journalistes des services politiques normaux et pas des spécialistes de diplomatie. Je l'accompagne et puis je lui dis la vérité, je lui dis, puis par ailleurs, ça rejoint ce que je vous disais sur mon enfance, je suis très patriote et un peu cocardier, donc aller voir les soldats qui se battent pour nous là-bas, moi, ça me touche et je suis content. Il me dit, ah, mais ça ne m'étonne pas, je sens qu'on va bien s'entendre. Et il me dit, d'ailleurs, je pense que vous et moi, on est un peu de la même espèce. On est fait du même bois. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, bah oui, vous et moi, nous sommes des guerriers. Moi, le chef d'état-major particulier, vous, le conseiller politique, nous sommes des guerriers. Et puis, me dit-il, vous comme moi, vous connaissez les hommes parce que vous êtes médecin. Et il me dit, vous savez que les hommes, c'est plus fait de tripes et de sang que de cervelle. Donc, je commence à me dire... Cet homme m'a l'air très intéressant. Alors, je prête l'oreille et il me dit... Et puis, par ailleurs, les ventres, vous êtes comme moi. Vous en avez mis vos mains dans des ventres. Vous, avec votre bistouri, moi, avec ma baïonnette.
Tous les deux, nous avons déjà ouvert un ventre. Voilà. Vous, avec votre bistouri, moi, la baïonnette. Tous les deux, nous y avons déjà mis les mains dans un ventre. Ça nous rapproche.
Et ça nous rapproche. Et donc, j'étais en train de me dire... Et c'est là que je lui réponds quelque chose du style...
une façon de voir.
C'est une façon de voir, mais... C'est, pourquoi pas? Et à ce moment-là, il change de sujet de conversation parce que bon, il y a une autre scène qui se déroule. Mais oui, c'est un personnage très
haut en couleur.
Alors, très haut en couleur.
Vous, à l'Élysée, il y a un trio hein, qui s'entend bien. Vous le dites. Hein,
oui.
Donc c'est le fils de Jean-François.
Nicolas Revel.
Nicolas Revel. Hein, c'est Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron.
Et puis c'est vous.
Oui.
Voilà. Bon. Et pourtant, avec Emmanuel Macron, c'est pas parce que vous allez produire une note chacun de votre côté avec le même titre, le changement c'est maintenant, mais qui dit exactement tout le contraire dans le détail. Hein, vous racontez cette scène, elle est savoureuse. Qu'est-ce qui vous rapproche avec Emmanuel Macron ? On va vite passer la parole à la salle. Qu'est-ce qui vous rapproche d'Emmanuel Macron alors qu'on a l'impression que vous êtes quand même très différent politiquement ?
Ah non, mais politiquement, on avait des désaccords. Mais ce qui m'a rapproché d'Emmanuel Macron, que je ne connaissais pas en arrivant à l'Élysée, c'est le travail.
Vous dites qu'il est charmeur et charmant.
Oui, il est d'ailleurs charmant, mais surtout charmeur. Il est séduisant et surtout séducteur. C'est quelqu'un qui sait très bien s'adresser et aux gens et leur dire, leur tenir le discours qu'il souhaite. Mais par ailleurs, il a des qualités intellectuelles tout à fait éminentes. C'est un homme très intelligent, brillant, très rapide, très drôle.
Vous y croyez, vous, à ses chances ?
Il a fait le pari de ce que, sur le premier point, j'étais d'accord avec lui. Enfin, plutôt, il était d'accord avec moi, parce que c'est une analyse que j'avais faite auparavant. Mais il a compris très vite que le président ne pourrait pas se représenter. Et donc, il a axé sa stratégie sur le fait qu'il fallait qu'il parte, et tôt, pour pouvoir être candidat. Et le second élément de sa stratégie, je ne sais pas si ça se concrétisera ou pas, c'est que lui, il fait l'analyse, et peut-être le pari, que le vieux monde politique va s'écrouler. Et que les Français vont demander une chose totalement différente et qu'il apparaîtra à ce moment-là comme le recours.
D'accord.
Moi, à titre personnel, je reste un indécrottable socialiste, donc je ne soutiens pas la démarche d'Emmanuel, d'autant que lui est un vrai libéral. Ouais. Ce sens, c'est vraiment le fils spirituel de François Hollande, mais un fils spirituel qui serait décomplexé.
Pas honteux. Comme
pas honteux, qui dirait les choses franchement. Et donc, à ce titre, moi, je ne le soutiens pas. Mais je reconnais que l'homme a de grandes qualités et que je comprends qu'il ait pu séduire pas mal de nos concitoyens.
Et que c'est peut-être pas fini.
Et que c'est peut-être pas fini. Ça, c'est les prochains mois qu'ils diront.
On termine sur ce que vous appelez le chantier. Hein, vous dites, finalement, j'étais devenu extrêmement encombrant. Je symbolisais quelque part l'alliance défaite Hollande-Montebourg. Donc, il fallait, d'une certaine façon, m'évacuer, enfin, me faire partir. Hein. Donc, vous dites, il a demandé à ses sicaires de monter, comme on dit en matière policière, un chantier. Hein. En gros, c'est un dossier.
C'est l'expression qu'on utilise, oui.
Voilà, hein. Et il y a donc cette scène. Alors, l'épisode qui est le plus connu, hein, l'épisode du cireur de chaussures, c'est page 386. J'ai compté, il fait 11 lignes dans votre texte.
C'est déjà beaucoup. Hein.
Et vous dites, c'était une bêtise, une faute de goût, une ânerie, une faute politique, une faute tout court. Et finalement, vous dites, mais François Hollande ne m'en a jamais parlé. Vous avez la conviction qu'il était au courant de ce qui s'était passé.
Ce n'est pas du domaine de la conviction. D'abord, c'est une histoire très triste. Je l'ai abordé parce que c'était inconcevable de ne pas le faire, puisque c'est le fameux motif qui a justifié.
Avec l'affaire de
qui n'existait pas.
Prise illégale d'intérêt.
Qui n'existait pas.
Ouais, voilà,
bon, donc, qui était totalement inventé. Donc, vous savez, comme on dit dans la sagesse populaire, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Ouais. Donc, c'est pas très compliqué. Mais l'histoire des chaussures, qui est une histoire vraie, c'est une histoire extrêmement triste. Pourquoi ? Parce que on a présenté ça comme si c'était une habitude que j'avais. Ce fameux cireur de chaussures, il est venu une fois. Parce que pour des raisons...
À l'hôtel Marie.
Des raisons stupides, j'étais à la bourre, j'étais pressé, j'étais allé acheter 15 jours avant un costume au bon marché. Il était là, il m'avait donné sa petite carte, je l'avais donnée à mon secrétariat, il l'avait noté. Et ce jour-là, j'ai dit, est-ce que par hasard, il serait pas libre ? Il est venu. Je l'ai payé de ma poche. Et il n'est jamais revenu. Bon. Qui ne commet pas une erreur qui n'était pas... Je veux dire, je n'ai volé personne. Ce n'était pas une habitude de nabab qui aurait vécu sur les deniers publics. Et qui ne commet pas une fois dans sa vie ce genre de bêtises ? Bon. Qu'est-ce qui aurait été normal ? En tout cas, moi, je pense que c'est ça qui aurait été normal. C'est que le président de la République, ayant été informé de cet événement, puisque on n'entre pas à l'Élysée comme dans un moulin, il faut montrer patte blanche, montrer sa pièce d'identité, que les gardes républicains prennent votre nom, le motif de votre venue, la personne que vous allez visiter... Donc, et que ce listing est reporté au président s'il y a des choses notables, si ce n'est quotidiennement, au moins hebdomadairement. Bon. Ce qui aurait été, de mon point de vue, encore une fois, un peu naïf de petit enfant espagnol, c'est que, ayant fait une bourde, qui n'était quand même pas, je n'ai volé personne, c'est rien de passé de grave, hein, que je sois convoqué par le président ou par un de ses collaborateurs, en l'occurrence le secrétaire général, qui me dise, mais enfin, tu as fait une connerie, pour dire les choses simplement. Parce que dans le livre, je tourne autour du mot. Je dis ânerie, faute, une connerie, on va dire. C'est le mot qui convient. Et qu'on me dise, mais c'est la première, la dernière fois que ça se produit. Et puis, sinon...
Carton jaune.
Sinon, dehors. Mais cet événement s'est produit en avril 2013.
Et vous partez le 18 avril 2014.
Pendant un an, le président, qui savait cela, m'a reçu tous les jours. Tous les jours, il m'a regardé dans les yeux.
Il vous alerte, il était chaussure, je sens bien.
Tous les jours, il m'a regardé dans les yeux. Tous les jours, il m'a souri. Tous les jours, il m'a demandé mon avis, mon conseil. Parfois même, il l'a suivi. Et il n'a pas été capable de me dire une fois, voilà, parce que la vraie raison de cette histoire, c'était qu'il voulait que je parte. Mais pas une seule fois, il m'a dit, écoute Akilido, maintenant nous avons fait ensemble un beau bout de chemin. Nous ne sommes plus d'accord, je vais prendre d'autres orientations. Toi, tu es l'époque du Bourget, etc. C'est fini. Je vais faire autre chose avec d'autres gens. Il est temps que tu partes. Mais s'il me l'avait dit, je serais parti. Pas seulement parce que c'était lui le président et que je lui aurais obéi, mais parce que pour moi-même, la vie était devenue impossible. Je vous rappelle qu'une des dimensions de mon métier était d'aller expliquer à la presse tous les jours que la politique du président était formidable. J'étais son porte-parole officieux. C'était une politique à laquelle je croyais de moins en moins. Donc tous les jours, quand j'allais au bureau... J'étais de plus en plus, comme on dit trivialement, le cul entre deux chaises.
Pourquoi vous n'êtes pas parti ?
Eh bien, je ne suis pas parti parce que la bonne raison pour partir aurait été Florange. Or, c'était 6 mois...
Oui, ça c'était novembre 2012.
6 mois après l'élection du président. Et on ne part pas au bout de 6 mois parce que qu'est-ce que vous m'auriez dit à ce moment-là ? Vous m'auriez dit, mais alors, vous avez déserté à la première difficulté, vous quittez le navire. Donc, je suis resté et le piège s'est refermé sur moi. Et donc, je termine cette histoire très triste. Pourquoi ? Parce que le président, au lieu de se comporter comme j'attendais qu'il le fasse, c'est-à-dire loyalement, humainement, simplement, a préféré attendre que les circonstances soient propices pour lui, en l'occurrence que je l'aide à changer de Premier ministre, ce qu'il voulait faire sans avoir la capacité de le faire, mettre Manuel Valls à Matignon, et à ce moment-là,
évidemment, de avril 2014.
Et à ce moment-là, le couperet est tombé, et on a ressorti cette histoire pour me présenter pendant 48 heures ou une semaine à la télévision, comme si j'avais été une sorte de nabab vivant dans le luxe. Alors que le luxe, vous voyez, le luxe, mon luxe à moi n'a rien à voir avec ça. Moi, ce sont les livres, oui. Ce sont les paysages de la Toscane, et ce n'est pas le luxe dont certains de mes camarades, au contraire, font un usage immodéré, mais hypocrite. Donc, je suis tombé, encore une fois, pour cette raison. Et cette histoire est très triste, parce qu'elle a été très triste pour moi, pour ma femme, pour mes enfants, qui ont été évidemment blessés, parce que me connaissant, ils savaient très bien que cette image qu'on a donnée de moi ne correspondait pas à la réalité, elle est triste parce qu'elle témoigne de ce qu'est le président. C'est ça qui me rend le plus triste. C'est même pas à la limite que j'étais expulsé dans des conditions assez indignes de mes fonctions. Parce que prenez les choses à l'inverse. Dans le système qu'il existe aujourd'hui, système monarchique républicain, vous pensez que le plus proche collaborateur du président de la République, son numéro 2, celui qu'il a demandé de venir, auquel il a demandé de venir après la campagne, on peut le chasser comme ça pour une affaire comme celle-là ? Vous pensez que des affaires comme celle-là, il n'y en a pas d'autres, beaucoup plus graves et qu'elles sont cachées et qu'on les saura jamais ? Celle-là, si on l'a su, c'est parce qu'on voulait qu'on la sache.
En tous les cas, on a compris qu'il ne savait pas rompre.
C'est vous qui l'avez dit. Fort bien.
Merci. Hein, merci à vous. Je crois qu'on peut vous applaudir pour la franchise de votre propos.
Et je voudrais alors vous remercier toutes et tous d'être venus et d'avoir écouté. Et puis vous remercier vous pour votre lecture extrêmement précise.
C'est gentil, oui.
Et érudite, savante et bienveillante.
Merci à vous.